Comme annoncé dimanche dernier, j'aimerais ce matin commencer une nouvelle série de messages qui va être différente des séries précédentes puisqu'elle ne va pas s'appuyer sur un personnage biblique ou sur un récit biblique, mais sur des questions, des interrogations. En effet, j'aimerais aborder dans cette série quelques-unes des grandes questions qui sont souvent opposées à la foi chrétienne. Quelques exemples pour vous donner une idée de là où on va. Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi la souffrance? La vie a-t-elle un sens? La foi et la science sont-elles compatibles? La Bible est-elle fiable? Dieu est-il misogyne? Dieu est-il homophobe? La religion est-elle la cause de la guerre? Qu'est-ce que la vérité? Etc. Voilà donc quelques-unes des questions que j'aimerais, si je peux, aborder dans cette série. Et la première, celle qui va nous intéresser ce matin, est certainement la plus importante, puisqu'il s'agit de la question « Dieu existe-t-il ?». Le sujet étant très vaste, j'ai décidé de l'aborder en deux parties, une première ce matin, une deuxième dans 15 jours. Parmi les questions dites existentielles, celle de l'existence de Dieu est à mon sens la plus importante, en particulier à cause de ses implications. En effet, si Dieu existe ou s'il n'existe pas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ainsi, si Dieu n'existe pas, s'il n'est que le fruit de mon imagination, de l'imagination de l'homme, peu importe, au final, que je pense qu'il existe ou pas, ça ne changera rien. Par contre, s'il existe et que je n'en tiens pas compte, cela change totalement la donne, en particulier celle de ma destinée éternelle. Il est donc logique, à mon sens, de commencer cette série apologétique par cette interrogation sur l'existence de Dieu. Et vous avez noté que je viens d'utiliser ce mot apologétique qui mérite sans doute quelques mots d'explication. C'est quoi l'apologétique ? C'est un mot qui est dérivé d'un mot grec, apologia, que l'on utilisait pour parler de la défense d'un accusé devant un tribunal. Ainsi, l'apologétique, c'est la défense ou la justification de l'opinion, de la position, des croyances, des convictions, de la foi, etc., de quelqu'un. Et ainsi, en tant que discipline théologique, l'apologétique, c'est la défense argumentée de la foi chrétienne face aux diverses critiques, illusion, fausseté, crédulité, incohérence, absurdité, etc., qui peuvent être soulevées contre elle. Elle a pour objectif de montrer la plausibilité, la crédibilité, mais encore la cohérence, la pertinence, voire la vérité de la foi chrétienne. On peut noter que même si l'on trouve des éléments apologétiques tout au long de la Bible, c'est surtout à partir du IIe siècle qu'elle est devenue une sorte de spécialisation du discours chrétien. Et c'est ainsi que des penseurs chrétiens ont écrit toutes sortes d'apologies de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Et une des premières, peut-être parmi les plus connues, est certainement celle du philosophe Justin Martyr, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, que vous avez peut-être même déjà lu, Justin Martyr qui a vécu de l'an 100 à l'an 165. Alors, en écoutant ce que je viens de dire, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de preuves, mais que j'ai parlé d'arguments, ou même dans la définition, il était question de défense argumentée. Pas de preuves, mais des arguments. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour beaucoup des questions qui vont nous intéresser, et en particulier celles qui nous intéressent ce matin, on ne peut pas parler de preuves. En effet, il n'est pas possible de prouver l'existence de Dieu de façon empirique, c'est-à-dire par une expérience vérifiable, répétable, vérifiable par d'autres. Si une telle preuve existait, ça se saurait. Et si une telle preuve existait, la foi ne serait pas nécessaire. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu à l'aide d'une expérience immédiate parce que Dieu ne peut pas être l'objet de nos sens. Dieu, s'il existe, est transcendant, ce qui veut dire qu'il dépasse les réalités palpables, sensible, expérimentable. On ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le toucher. Et même si l'on peut vivre une expérience spirituelle, ce n'est jamais que l'expérience d'une manifestation de Dieu, et non pas une expérience de Dieu en lui-même. Et puis, à toute expérience spirituelle, on peut proposer une explication naturelle, le plus souvent psychologique ou neurologique. Non, on ne peut pas prouver empiriquement l'existence de Dieu. Il n'y a pas de preuve. Dieu n'est pas expérimentable. Ceci dit, notons que l'inverse est vrai aussi. S'il n'est pas possible d'apporter une preuve de l'existence de Dieu, il n'est également pas possible de prouver l'inexistence de Dieu. Pour pouvoir affirmer qu'une chose n'existe pas, il faudrait pouvoir connaître toute la réalité, y compris les réalités imperceptibles, et constater, en regardant dans toute la réalité, que cette chose ne s'y trouve pas. Or, personne n'est en mesure d'apporter une telle preuve parce que personne ne connaît toute la réalité. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve empirique de l'existence de Dieu que l'on peut conclure que Dieu n'existe pas. L'absence de preuve de l'existence d'une chose, ce n'est pas la preuve de son inexistence. Il faut vous accrocher ce matin, surtout que je vais vite. L'absence de preuve de l'existence de Dieu, ce n'est pas la preuve de son absence. C'est ce qu'écrit Philippe de Paul dans un petit livre intitulé « J'ai du mal à croire ». Et voilà une illustration toute simple pour vous aider à comprendre ce dernier point. Si je n'ai pas la preuve, là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas vous prouver qu'il y a un chat qui se promène en ce moment sur le toit d'une maison dans un village en Chine. Je ne peux pas vous le prouver. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucun chat qui se promène en ce moment sur un toit en Chine. L'absence de preuve de l'existence d'une chose n'est pas la preuve de son inexistence. Il n'est donc pas possible de prouver par une expérience que Dieu existe, tout comme il n'est pas possible de prouver qu'il n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler d'arguments, d'indices et non pas de preuves pour répondre à la question « Dieu existe-t-il ?» Les preuves de la foi, c'est autre chose et on en parlera bien sûr plus tard. Avant de passer aux arguments, encore un mot sur les trois positions qu'une personne peut adopter, peut prendre en face de notre question « Dieu existe-t-il ?» Il y a la position agnostique, l'agnosticisme, qui dit que l'on ne peut pas savoir si Dieu existe. Puis il y a l'athéisme qui dit que Dieu n'existe pas. Et puis le théisme qui dit que Dieu existe. Voilà les trois grandes familles, les trois grandes catégories de positions possibles devant cette question « Dieu existe-t-il ? » Soit j'apporte une réponse agnostique, athéiste ou théiste. Nous arrivons à notre deuxième grand point, les arguments de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Pour beaucoup de nos contemporains, moins peut-être que ce que veulent nous faire croire nos médias, la croyance en Dieu appartient à un autre âge. Ainsi, Matthieu Sanders, que l'on connaît, et Raphaël Hanzenberger écrivent dans un petit livre qui s'intitule « Questions autour de Dieu » la chose suivante. Bon nombre de personnes aujourd'hui estiment qu'on ne peut plus croire en un être éternel, parfait et absolu. Cela relèverait de la superstition, d'une ère révolue. Aujourd'hui, maître de lui-même et de son destin, illuminé par la science, l'homme n'aurait plus besoin de se raconter des histoires. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de nos contemporains affirment que Dieu n'existe pas. Avant d'aborder les arguments des athées, de l'athéisme, en faveur donc de l'inexistence de Dieu, j'aimerais rapidement dire un mot sur l'agnosticisme. Et j'en ai fait par convenance le premier sous-point de ce point 2 où nous parlons des arguments de ceux qui disent que Dieu n'existe pas, même si ce n'est pas logiquement à cet endroit-là qu'il faudrait le mettre. L'agnosticisme, si vous prenez un dictionnaire, j'ai pris le petit Robert, dit que c'est la doctrine d'après laquelle tout ce qui est au-delà du donné expérimental est inconnaissable. Inconnaissable. Et donc, que répond l'agnostique à la question « Dieu existe-t-il ? » Il répond qu'il n'est pas possible de savoir si Dieu existe. C'est au-delà du donné expérimental, donc c'est inconnaissable. Et en fait, beaucoup de nos contemporains se disent agnostiques, se mettent dans cette catégorie. Si les croyants affirment que Dieu existe, les athées qu'il n'existe pas, les agnostiques refusent de trancher la question, ils ne savent pas si Dieu existe. Certains vont considérer qu'ils n'ont pas ou pas encore assez d'informations pour se positionner. D'autres sont convaincus qu'il est impossible de savoir si Dieu existe. Et puis d'autres encore sont indifférents. La question de l'existence de Dieu ne se pose pas pour eux. Elle n'a pas de sens. Deux remarques rapides au sujet de la position agnostique. J'étais très frustré en préparant ce message parce qu'il fallait faire des coupes franches à tous les étages. Là, je vous donne deux remarques, j'aurais pu vous en donner 10 et c'est comme ça pour chaque point. Mais voilà, pour ceux qui veulent creuser, il y a de très bons livres. J'ai essayé quand même de retenir l'essentiel. Donc, deux remarques. Premièrement, l'agnosticisme est une position bancale. Une position bancale, pourquoi ? Parce que soit Dieu existe, soit il n'existe pas. C'est l'un ou l'autre. Et il ne peut pas y avoir de position intermédiaire. Et donc l'agnosticisme, pour certains en tout cas, peut être une façon de botter en touche, comme on dit, d'évacuer la question difficile de l'existence de Dieu et de se déresponsabiliser. Je ne sais pas. Dieu est au-delà de ce qu'on peut savoir. Ils pensent avoir réglé la question, mais ils sont quelque part assis entre deux chaises. Deuxièmement, si certains sont dogmatiques dans cette position, dans la position agnostique, ils vont néanmoins reconnaître leurs limites personnelles. Et ils vont le reconnaître honnêtement. Ils ne savent pas, mais ils sont ouverts à la question. Ils sont ouverts à la discussion. Et certains admettent même la possibilité qu'il existe un Dieu échappant à leur sphère de connaissance. Le célèbre athée Stephen Hawking, qui est décédé il y a quelques années, reconnaissait même que c'est une probabilité. Il ne pouvait pas complètement évacuer le fait qu'il puisse y avoir un Dieu. Est-ce que ce n'est pas à nous, les croyants, ceux qui croient que Dieu existe, d'avoir des arguments à proposer à ceux qui sont ouverts à la question, ouverts à la discussion? Souvenons-nous de cette parole, promesse de Jésus adressée à ceux qui cherchent. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quelle belle promesse pour quiconque se pose des questions sur l'existence de Dieu. Dieu qui promet de se laisser trouver. Passons maintenant à l'athéisme et plus particulièrement aux arguments des athées qui affirment donc « Dieu n'existe pas ». C'est l'essentiel du point 2. Et le premier argument que je vais évoquer est de loin le plus long, hein, c'est pour essayer de vous rassurer. Il regroupe plusieurs positions que l'on pourrait résumer comme je l'ai fait ici. Dieu n'existe pas car la foi ou l'idée de Dieu, la religion, la foi, l'idée de Dieu, est une invention humaine. On peut tout regrouper, tout ce que je vais dire, sous cette synthèse. Pourquoi cette invention de Dieu par les hommes? C'est ce que nous essayons de comprendre quand nous essayons de nous intéresser à cet argument. Et nous voyons qu'il y a différentes raisons qui feraient de l'idée de Dieu une consolation pour les faibles, pour les pauvres, pour les malheureux. Ainsi écrit Daniel Hillion, qu'on a aussi déjà eu ici il y a plusieurs années, en parlant des protagonistes de cette position, dans un livre très intéressant, alors là pour le coup c'est vraiment un pavé, c'est une fois des arguments, une fois virgule des arguments, et c'est coécrit par Lydia Yeager, qui est professeure à l'Institut biblique de Nogent, et puis Alain Isus, qui est aussi professeur là-bas, et peut-être à la faculté de libre de théologie évangélique. Et donc, dans ce livre, Daniel Hillion, qui ne partage pas cette opinion, dit ceci. « Le croyant est quelqu'un de faible, qui s'attache à des illusions pour supporter une réalité qu'il trouve trop dure à supporter. La religion est une béquille pour les faibles, dont les forts se passent sans difficulté. » Voilà l'idée. Dieu n'existe pas parce que la foi est une invention humaine pour pallier à tout cela. Et c'est une objection que l'on oppose souvent à la foi religieuse en général et à la foi chrétienne en particulier. Et cette objection peut prendre diverses formes et accents que l'on ne peut pas aborder ici de manière exhaustive, mais je vais prendre quelques exemples. Pour certains, par exemple, la foi religieuse aide à supporter un présent trop difficile à vivre. Elle donne du sens et enchante le monde. Elle met un Père dans le ciel qui satisfait notre besoin de nous sentir aimés et protégés. Elle nous permet de ne pas nous sentir trop seuls, comme les amis imaginaires que se créent certains enfants. C'est une position qui est assez courante. Pour d'autres, dont le philosophe Michel Onfray, dont on a parlé pas mal ces dernières années, dit ceci, « La religion répond plus particulièrement à la peur de la mort, parce que nous ne supportons pas la perte des êtres aimés ou la perspective de notre propre disparition, nous nous inventons une vie future et éternelle dans laquelle nous nous retrouverons tous dans un contexte paradisiaque. La foi consisterait alors à prendre nos désirs pour des réalités. Pour celui qui est lucide, il est clair que tout cela serait trop beau pour être vrai. Et Michel Onfray, dans le livre qui a fait beaucoup parler de lui, « Traité d'athéologie », dit ceci. La génération du divin, donc la création du divin, coexiste avec le sentiment angoissé devant le vide d'une vie qui s'arrête. Dieu naît des raideurs, rigidité et immobilité cadavérique des membres de la tribu. Quand s'effondre une âme devant la froideur d'un être aimé, le déni prend le relais et transforme cette fin en commencement, cet aboutissement en début d'une aventure. Dieu, le ciel, les esprits mènent la danse pour éviter la douleur et la violence du pire. Enfin, pour d'autres, la perspective est plus sociologique. La religion est conçue comme un moyen de tenir les masses dans la soumission, en leur faisant espérer la félicité éternelle, si elle ne trouble pas l'ordre temporel présent. Le pauvre, dont les besoins de base ne sont pas satisfaits aujourd'hui, prend patience en se réfugiant dans l'espérance bienheureuse. Le spirituel éclipse le matériel, le social ou le politique. On connaît l'affirmation marxiste célèbre « La religion est l'opium du peuple ». Il y aurait eu là aussi beaucoup de choses à dire. Je parle juste encore rapidement de Freud. Freud qui a suggéré que l'idée de Dieu est un transfert du sentiment filial, un retour nostalgique à l'enfance, où on était sous la protection d'un père juste, bon et puissant. Et Freud écrit « La psychanalyse nous a appris à reconnaître le lien intime unissant le complexe paternel à la croyance en Dieu. Elle nous a montré que le Dieu personnel n'est rien d'autre psychologiquement qu'un père transfiguré. » Pour Freud, la religion, qu'il réduit à un ensemble de rites, c'est ça la religion pour lui, n'est finalement qu'une névrose, c'est la conclusion à laquelle il arrive, basée sur les symptômes de la névrose individuelle. Elle repose en fin de compte, dit-il, sur l'impuissance infantile du genre humain. Ce premier argument en faveur de l'inexistence de Dieu se résume donc au fait que la religion ou l'idée de Dieu en général et la foi chrétienne en particulier sont une invention humaine à reléguer au rang d'illusion ou au rang de conte de fées, et donc croire en Dieu ou croire au Père Noël, c'est finalement la même chose, c'est du même ordre. C'est du besoin de se rassurer. En général, que viendrait l'idée de Dieu avec ses promesses, et qui est finalement, comme l'écrit Luc Ferry, trop belle pour être vraie. Trop belle pour être vraie. Voilà la citation. La promesse que nous font les religions pour calmer les angoisses de la mort, à savoir celle d'après laquelle nous sommes immortels et allons retrouver après la mort biologique ceux que nous aimons, est, comme on dit, trop belle pour être vraie. Luc Ferry. Alors, que répondre à ce premier argument ? C'est une invention humaine. Il y aurait beaucoup à dire. On va être rapide, mais j'aimerais juste, comme ça, esquisser quelques pistes de réflexion. Premièrement, le constat de la consolation qu'apporte la foi chrétienne ou la religion ne me semble pas être un argument probant si cette consolation est réelle et surtout si elle est transversale. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'elle ne touche pas seulement les pauvres et les malheureux, mais aussi les riches et les bien portants. Et c'est le cas. Il n'y a pas que des pauvres et des malheureux qui croient en Dieu. C'est peut-être une majorité, mais il n'y a pas que. Et donc cet argument, me semble-t-il, tombe à plat. Deuxièmement, l'argument « c'est trop beau pour être vrai » n'est pas un argument en soi et ne peut pas servir de norme pour accepter ou refuser un message. Une réalité, un message, quel qu'il soit, est vrai ou faux, indépendamment du fait qu'il soit trop beau ou trop horrible pour être vrai. Et ce qui compte, c'est la vérité et non pas mon appréciation. Troisièmement, la foi chrétienne ou l'idée de Dieu ne sont pas que des messages rassurants et réconfortants. C'est aussi ou ce sont aussi des messages effrayants et exigeants. Il suffit de penser à l'annonce du jugement à venir ou encore à l'exigence du reniement à soi, de soi, pardon, auquel le disciple de Jésus est appelé pour suivre son maître. Non, tous les aspects de la foi chrétienne ne sont pas consolants, même pour le croyant. Et on peut rappeler encore ici que le message de l'Évangile nous appelle à reconnaître que nous sommes pécheurs, ce qui ne correspond pas, et de loin, à nos désirs ou à nos aspirations les plus profondes. Se reconnaître pécheur devant Dieu est sans doute ce que l'être humain a le plus de mal à faire et le moins envie de faire. Et si l'homme devait imaginer inventer un évangile pour calmer ses peurs et pour se consoler, il y a fort à parier qu'il serait bien différent de celui que nous trouvons dans la Bible. Et on peut d'ailleurs passer en revue les religions de notre monde qui toutes mettent en avant la question des mérites. Dieu se gagne, Dieu se mérite par les bonnes choses que je fais et par les mauvaises que je ne fais pas. Et il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui soit construit sur le principe de la grâce. Nous n'avons rien à faire valoir, nous avons simplement à venir pour recevoir. Passons au deuxième argument, l'argument du sens de la vie humaine. Dieu n'existe pas car la vie est absurde. Si Dieu existe, disent certains, alors la vie humaine devrait avoir un sens. Or, disent-ils, ce n'est pas le cas. La vie humaine n'a pas de sens. L'existence est absurde et nous vivons dans un monde absurde. Comment alors pourrait-il y avoir un Dieu ? Rapidement, deux citations pour illustrer cette pensée de l'absurdité de la vie. Le baron de Montesquieu qui disait « C'est à la naissance et non à la mort que nous devrions pleurer. » Si la vie est absurde, on comprend le raisonnement. Et puis Jean-Paul Sartre qui disait « Le monde n'est pas le produit de l'intelligence. » En parlant de l'intelligence de Dieu, d'une volonté divine, il apparaît à nos yeux comme un bout de papier chiffonné. Qu'est-ce que l'homme sinon une petite flaque d'eau dont la liberté est la mort ? L'absurdité, l'idée de l'absurdité de la vie est portée en philosophie par un courant qui s'appelle le nihilisme, du mot latin nihil qui veut dire rien, le vide, le nihilisme. Et vous connaissez celui qui en est sans conteste la figure emblématique, c'est Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Et pour le nihiliste, Dieu n'existe pas tout simplement parce que tout ce que nous vivons n'a aucun sens. Et donc, ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu derrière tout ça. Et l'aboutissement logique de cette pensée, c'est qu'alors tout devrait être permis. Si rien n'a de sens, il devrait être possible de faire ce que l'on veut. S'il n'y a rien ni personne qui donne de sens à ce que je fais, s'il n'y a pas de bien qui serve de référence à notre vie, alors je peux faire ce que je veux. Ça, c'est la logique poussée jusqu'au bout. Cependant, ils sont peu nombreux, à ma connaissance, ceux qui vont jusque-là dans leur raisonnement parce qu'ils se heurtent à quelque chose d'incontournable, c'est-à-dire les valeurs morales. Que faire des valeurs morales qui existent? D'où viennent-elles? Et le problème, c'est qu'à de très rares exceptions pathologiques, tout le monde a des valeurs morales. Et qui dit valeur morale dit sens à la vie. En fait, dans la pratique, il est impossible de vivre sans aucune valeur morale, sans aucune valeur. Il est impossible de vraiment vivre en nihiliste. Pourquoi se lever le matin si la vie n'a pas de sens? Pourquoi éduquer les enfants et les inciter à réussir dans la vie si rien n'a de valeur? Une société véritablement nihiliste serait insupportable, invivable. Et j'ai lu, il semblerait que Nietzsche ait essayé, en tout cas à la fin de sa vie, de vivre en nihiliste. Et son biographe, d'après Stéphane Gokroger, dans son livre « C'est l'évidence même », dit que c'est en partie pour cette raison qu'il a essayé de vivre en nihiliste, qu'il a terminé les 10 dernières années de sa vie dans un asile d'aliénés. Mais alors, si la vie n'a pas de sens, d'où viennent nos valeurs universelles? Pourquoi la très grande majorité des hommes considèrent-ils, par exemple, que tuer, c'est mal? Pourquoi la quasi-totalité des êtres humains pensent-ils qu'abuser un enfant, c'est une abomination? Cette question de l'origine des valeurs morales et du problème que cela pose à ceux qui disent que Dieu n'existe pas, parce que, à ceux qui disent que Dieu n'existe pas, tout cela a donné naissance à ce qu'on appelle la moralité sans Dieu. La moralité sans Dieu qui est particulièrement débattue de nos jours. Et certains pensent avoir marqué un point important en constatant que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont des valeurs morales, même les athées ont des valeurs morales. Mais est-ce que ce constat est suffisant pour dire que Dieu n'existe pas? En réalité, me semble-t-il, la bonne question qu'il faut poser n'est pas « faut-il être chrétien pour être moral ?» mais plutôt « est-ce que la moralité peut exister si Dieu n'existe pas ?» Et cela nous amène à nous demander quel est le fondement de la moralité humaine. Et à moins de nier que le bien et le mal sont des notions objectives, c'est-à-dire qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, la question est absolument cruciale. Rapidement, quelles sont les explications apportées à cette moralité sans Dieu? J'en cite simplement deux. Premièrement, pour certains, ce serait une sorte de consensus humain du type droit de l'homme. Les valeurs morales seraient une sorte de consensus du type droit de l'homme. On peut noter que cela n'explique pas quel est le fondement ou l'origine de ce consensus. Comment s'est-il formé? Qui est à l'origine? Et comment expliquer que tous les êtres humains doivent le suivre? Pour les défenseurs de la moralité sans Dieu, la seule possibilité, c'est d'affirmer ce consensus sans pouvoir expliquer l'apparition de la moralité humaine. Et puis, deuxièmement, pour d'autres, les valeurs morales seraient le résultat purement naturel de notre adaptation évolutionniste et de notre conditionnement social. Ce serait la sélection naturelle qui serait la création, le moteur, pardon, de la création morale. Et à ce sujet, Yannick Imbert, toujours dans ce livre, Une fois des arguments, écrit: c'est parce que l'espèce deviendrait mieux adaptée à la survie dans son environnement que des comportements comme l'altruisme, le sacrifice ou la bonté ont été sélectionnés. de telles valeurs qualifiées de bonnes ne le sont que par leur utilité pour la survie de l'espèce. En soi, il n'y a pas de bonnes valeurs. Et puis, il poursuit, cette explication naturaliste est assez commune, mais elle pose un problème important. Elle nous amène à conclure qu'il n'y a rien de mauvais en soi. Le mal, quel qu'il soit, ne l'est jamais vraiment, ou plutôt, il n'est que relatif. Si jamais notre survie demande que le standard du bien et du mal change, rien ne peut l'empêcher. On avance. Troisième argument, avant-dernier, Dieu n'existe pas car la science l'a démontré. C'est donc l'argument de la supériorité de la science. Et cet argument est très courant aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains pensent que la science a tué Dieu, a démenti Dieu. Comme l'a écrit Julian Huxley, en réduisant Dieu au sourire grimaçant d'un vieux singe. Alors, la science a-t-elle effectivement tué Dieu ? Pour beaucoup de nos contemporains, c'est le cas, et pour beaucoup de nos contemporains, foi et science s'opposent, sans conciliation possible. Pourtant, nous constatons que beaucoup de savants à l'origine de la science moderne étaient des chrétiens convaincus. Et il n'est d'ailleurs pas rare aujourd'hui de trouver des scientifiques de haut niveau qui ne se cachent pas d'être chrétiens. Peut-être que ce n'est pas vraiment toujours à eux que les médias donnent la parole, mais ils existent. Et Lydia Yeager, dans son livre avec Alain Isus, dit ceci. Un exemple notoire est Francis S. Collins, aujourd'hui directeur des National Institute of Health, donc l'Institut national de la santé, qui a dirigé le projet Génome humain quand le génome humain a été séquencé pour la première fois en 2000. Il confesse sa foi publiquement et a fondé le Biologos Foundation qui promeut une vision réconciliée entre science et foi biblique. Alors il y aurait ici pléthore, comme partout, dans ce sujet, et en particulier, il y aurait beaucoup de choses à dire ici sur la cosmologie. Alors j'en évoquerai certaines de ces choses quand nous passerons aux arguments en faveur de l'existence de Dieu. Nous en reparlerons et nous verrons à ce moment-là qu'il existe, malgré tout ce qu'on peut lire et entendre sur le sujet, de très belles convergences entre la foi et la science. Quatrième argument que je ne fais qu'évoquer, parce que j'ai l'intention de l'aborder dans un message à part, Dieu n'existe pas car le mal ou la souffrance existe. Une autre façon de poser ce... Et donc, je vous renvoie dans quelques semaines. Nous avons donc quelques arguments de celles et ceux qui disent « Dieu n'existe pas » et j'aimerais, pour terminer, faire quatre remarques assez rapides sur l'athéisme. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'athéisme est une déclaration de foi. Ça peut surprendre. Mais une déclaration de foi. Nous l'avons dit, l'athée n'a aucune preuve logique et irréfutable de ce qu'il avance quand il dit « Dieu n'existe pas ». Et de mon point de vue, à la lumière des arguments que nous verrons la prochaine fois, quand nous dirons « de mon point de vue, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de foi » pour être athée que pour être chrétien. pour croire que la vie, dans sa complexité, quand on va jusqu'à l'ADN, jusqu'aux atomes, etc. La vie dans sa complexité et le maintien de la vie dans sa complexité, que tout ça s'est formé par le hasard. On y reviendra. En niant que Christ, l'athée doit affirmer un postulat qui est absolument invérifiable, que tout ce qui existe est survenu par hasard, de manière strictement aléatoire et sans l'intervention d'aucune volonté. Cette conviction est non seulement invérifiable, mais elle est surtout hautement improbable. Hautement improbable. Comme l'écrivent, je les ai déjà cités, Mathieu Sanders et Raphaël Hanzenberger, et qui disent « Car cela supposerait qu'un monde cohérent, adapté aux besoins de l'homme et extraordinairement fonctionnel, soit advenu par une série sans fin de hasards et de coïncidences. Oui, il faut plus de foi pour être athée que pour être chrétien. » La deuxième remarque que je voudrais faire concerne les deux poids et deux mesures que l'on peut souvent constater chez les protagonistes de l'athéisme. Et dans un article sur le blog d'Évangile 21 que certains connaissent, Michel Vincent dit : L'être humain est un paradoxe sur deux pattes, sans aucune preuve et nourri d'hypothèses sans aucun fondement solide. Et là, pour la remettre dans le contexte, il est en train de parler de l'éventualité terrestre et que des extraterrestres puissent prendre un jour contact avec nous. Il est en train de disserter sur ce point. Et il dit, nous sommes prudents devant cette éventualité, sans aucun fondement solide. Pourtant, lorsqu'il s'agit de formuler qu'un Dieu créateur ou non puisse exister, nous rejetons la supposition comme une chimère impossible. Sans discussion et sans appel, comme si la non-existence de Dieu était l'hypothèse la plus profondément ancrée. Et puis il poursuit un peu plus loin et il dit « Dans sa quête de savoir, l'homme fait usage de deux poids et deux mesures lorsqu'il est question de Dieu. L'homme est toujours prêt à considérer toute hypothèse, voire celle du néant comme probable, sauf en face de celle de Dieu. Sa soif de connaissance rencontre une cloison hermétique devant l'existence de Dieu, comme s'il désirait voir Dieu disparaître de son champ de vision. Et en effet, nous constatons qu'il y a souvent deux poids et deux mesures quand il s'agit de la question de l'existence de Dieu. Mais finalement, ce n'est pas très surprenant et c'est même plutôt cohérent avec ce que nous lisons dans la Bible. Et nous lisons dans la Bible que l'homme pécheur cherche à échapper à Dieu, cherche à faire disparaître Dieu de son champ de vision en pensant pouvoir lui échapper. On pourrait citer ici Romains 1, ils sont inexcusables car ils savent que Dieu existe, mais ils rejettent la connaissance de Dieu. Ce constat des deux poids et deux mesures m'amène à une avant-dernière remarque qui dit que l'athéisme est une position hasardeuse et arrogante. En effet, personne ne s'aventure en terre inconnue sans avoir au préalable évalué ses chances de survie. Les dangers et les risques encourus doivent être considérés à l'avance. C'est une question de vie et de mort. Et ainsi, il serait prudent, face à la possibilité que Dieu existe, d'en tenir compte. Car si Dieu existe, et si la Bible dit vrai, je devrais un jour me tenir devant Dieu pour lui rendre des comptes de ma vie. Pourtant, cette prudence, cette intelligence, cet instinct de survie deviennent tout à coup caduques pour beaucoup de nos contemporains lorsque se pose la question de l'existence de Dieu. Et ainsi conclut Michel Vincent à la fin de cet article que j'ai déjà cité. Le véritable problème n'est pas d'ignorer l'existence de Dieu, mais de faire comme s'il n'existait pas. Un déni volontaire qui va à l'encontre du simple bon sens, voire de toute démarche scientifique. L'homme refuse même la possibilité. Le si est rejeté de facto. Étrange pour un être se disant intelligent et à la pointe de la civilisation, de la pensée et des connaissances. Ce paradoxe n'est en fait qu'une illusion. Il ressemble beaucoup plus à un déni qu'à une recherche loyale de la vérité. Ouf, je termine avec une quatrième et dernière remarque sur l'impuissance de l'athéisme. Et là, je cite encore Stephen Gokroger dans son livre « C'est l'évidence même » qui dit ceci. Je suis très, très redevable à toutes les lectures que j'ai faites pour le message de ce matin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de citations, parce que ce n'est pas un sujet dans sa complexité que je maîtrise. A-t-on jamais entendu quelqu'un affirmer « Je viens de devenir athée et cela a changé toute ma vie. J'étais alcoolique, je battais ma femme et je suis maintenant un chef de famille idéal. » L'athéisme n'a pas du tout cette puissance morale. Le chrétien, par contre, pourra citer des dizaines d'exemples où le fait de connaître Dieu a produit un changement radical dans la vie de ces personnes. Et Stephen Gokroger donne ensuite une illustration, et c'est la dernière citation, où il dit ceci. « Au siècle dernier, un éminent penseur du nom de Charles Bradlaugh a défié un évangéliste local de se mesurer à lui lors d'un débat public. Il s'agissait de comparer les prétentions du christianisme et celles de l'athéisme. L'évangéliste accepta à une condition, que Bradlaugh amène avec lui 100 personnes dont l'engagement dans l'athéisme avait transformé la vie. S'il y parvenait, Hugh Price, amènerait avec lui une centaine de personnes dont la vie avait été transformée par leur connaissance de Dieu. Pour être certain de bien faire passer son message, il offrit à Bradlaugh d'accepter le débat si celui-ci ramenait 50 personnes dont le contact avec l'athéisme avait transformé la vie, puis 20 personnes, puis 10, et finalement s'il pouvait ramener un homme et une femme dont la vie aurait changé en mieux grâce à son contact avec l'athéisme. Comme on pouvait s'y attendre, Charles Bradlaugh annula son invitation au débat. Chers amis, l'athéisme n'a aucune puissance morale susceptible de changer une vie, ce qui n'est pas le cas de l'Évangile. Je peux en témoigner et beaucoup ici ce matin peuvent faire de même. Dieu existe-t-il ? Ce matin, nous avons survolé les principaux arguments de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. La prochaine fois, je sais que vous avez rongé votre frein, nous verrons, nous considérerons les arguments que nous pouvons opposer à ces arguments. Ça sera dans 15 jours. Amen.